France Inter, le 18-20.
Après chaque affaire, reviennent les mêmes questions. Et la dernière fois, c'était avec Angélique à la toute fin du mois dernier. Une jeune fille tuée, violée par un homme qui avait été condamné pour des faits similaires il y a plus de 20 ans. À chaque fois, donc, on interroge le suivi des délinquants sexuels. On interroge nos outils, on interroge les soins, la médecine. On interroge aussi les fichiers. Et c'est ce sur quoi nous avons eu envie de réfléchir à froid ce soir, loin des polémiques et des coups de menton des politiques aussi. Alors allons-y, parlons de ce fameux suivi socio-judiciaire. Est-ce qu'il est obligatoire ? Combien de temps dure-t-il ? L'obligation de soins, à quoi ça peut ressembler ? Combien de temps là encore ? Est-ce que la castration chimique est le remède miracle ? Le fichier national des délinquants sexuels est-il efficace ? Vu par qui l'ouvrir aux quatre vents, comme le font les anglo-saxons ? Est-ce que ça rend les récidives moins fréquentes ? Faudrait-il de nouveaux outils ? Et lesquels ? Parlons-en ensemble et bienvenue dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Synthèse. Le Téléphone Sonne.
Clément, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu et on vous écoute.
Oui, bonjour. Donc je m'occupe des questions de santé pour une petite communauté de communes. Et ce que je peux voir sur les territoires, c'est que le suivi s'effectue principalement dans des CMP, des centres médico-psychologiques, des structures qui remplissent déjà leur mission avec les moyens qu'on leur donne, et pas toujours suffisamment pour pouvoir faire aussi bien qu'elles le souhaiteraient. Et le flux, en fait, des obligations de soins est important, et parfois il est difficilement pris en charge dans ces structures. Ça amène parfois à des réajustements ou à des refus directement. Peut pas répondre à l'obligation de soins dans des bonnes fréquences. Et du coup, ça met les professionnels en difficulté. Ça montre déjà qu'il n'y a pas forcément de communication entre la santé mentale et les services judiciaires. En tout cas, qu'il faut soit donner plus de moyens pour que le contenant puisse accueillir le flux, et en tout cas qu'on puisse mettre autour de la même table ces institutions qui ont besoin de travailler ensemble et qui peuvent faire un très bon travail si on leur donne les moyens.
Merci beaucoup Clément pour cette formidable entrée en matière qui nous met directement dans notre sujet pour répondre à vos questions ce soir et pour dialoguer ensemble. Florence Thibault est là, bonsoir. Vous êtes professeure de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Descartes, présidente de l'Association internationale pour la santé mentale des femmes. Bonsoir Virginie Duval.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'Union syndicale des magistrats. Et Daniel Messager également. Bonsoir,
bonsoir.
Daniel, spécialiste santé à France Inter. Je commence avec vous, Florence Thibault. Qu'est-ce qu'on peut dire à Clément qui parle tout simplement d'embouteillage et qui dit embouteillage dit qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde de la même manière et surtout s'en occuper bien.
Alors c'est une vraie question, c'est une question qui m'a été posée pas plus tard que ce matin de la part d'une collègue qui travaille également dans un CMP et qui me disait qu'elle était très ennuyée avec un patient délinquant sexuel qu'elle avait en charge dans le cadre de son activité sectorielle, puisque vous savez que la psychiatrie est sectorisée, c'est-à-dire qu'en fonction de son lieu d'habitation, on dépend d'une structure ou d'une autre. Et donc je comprends parfaitement que les structures soient embouteillées, ça dépend après des régions, ça dépend des effectifs, et donc a été créé il y a quelques années ce qu'on appelle des centres ressources pour les auteurs de violences sexuelles, dont un certain nombre acceptent maintenant, parce que ça ne faisait pas partie de leur cahier des charges initialement, de prendre en charge des patients délinquants sexuels, en particulier les plus compliqués. Et donc ça peut être une alternative de soins.
Mais quand on parle
il y en a une par région.
Et quand on parle d'obligation de soins, on parle de quoi ? Alors j'imagine que chaque cas est un cas particulier évidemment, mais est-ce qu'on parle de ça dure combien de temps ? Est-ce que ça peut durer des années ? De cette manière-là, c'est quoi exactement l'obligation de soins dans un cadre comme celui de Clément ? Allez-y, Virginie Duval.
Oui, l'obligation de soins, elle peut être prononcée dans plusieurs cadres. Ça peut être dans le cadre d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire avant une condamnation ou après une condamnation, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ou aussi d'un suivi socio-judiciaire. Il y a beaucoup de cadres juridiques qui permettent d'imposer des soins, mais le judiciaire ne contrôle qu'il y a des soins qui sont suivis, mais ne contrôlent pas le contenu de ces soins, évidemment, puisque ça fait partie de la relation entre le patient et le médecin.
Mais pardon, Daniel, vous vouliez intervenir ?
Oui, peut-être que le professeur Florence Thibault peut expliquer justement comment ça se met en place, cette obligation de soins, parce que ça se passe dans une relation effectivement entre la personne qui est obligée de se soumettre à des soins et le médecin qui peut lui en proposer différents types. Et il s'accorde sur un type de traitement, de soins.
Tout à fait. Alors ça a été mis en place à peu près, on va dire, dans les années 2000 où ça a commencé à être opérationnel, même si la loi a été votée en 98. Et au départ, les durées d'injonction de soins étaient assez timides puisque les juges mettaient 1 an, 2 ans. Et puis maintenant, on est plutôt dans des durées plus longues. On est 5 ans jusqu'à 10 ans à peu près au maximum dans les crimes les plus sévères. Et à ce moment-là, on voit arriver des patients qui sont sortis de prison, à qui on a demandé de subir une injonction de soins. Et donc, le patient choisit son thérapeute, seul ou avec l'aide d'un médecin coordonnateur qui va être l'intermédiaire entre la santé et la justice. Et le médecin coordonnateur est chargé de voir au minimum 3 fois par an le patient et de faire un rapport avec la justice. C'est-à-dire qu'il est délié d'une partie du secret médical dans sa relation avec le juge, ce qui n'est pas forcément le cas du thérapeute. Et donc le médecin coordonnateur, il a un rôle de conseiller, de surveiller, de vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre la pathologie du patient et les soins qui sont appliqués, et d'en référer au juge, soit parce que tout va bien, soit parce qu'il y a une difficulté particulière.
Et est-ce qu'il y a toujours une obligation de soins quand on parle de délinquance sexuelle ou pas ? Est-ce que ça fait partie de toute façon, pardon de le dire comme ça, du package au moment où une personne sort ?
Le suivi socio-judiciaire, tel qu'on vient de l'évoquer, c'est une peine complémentaire qui est prononcé, alors qui peut être prononcé sans limitation de durée en fonction du délit, du crime, pardon, qui a été commis. Il y a une durée maximale pour les délits, ça peut être 10 ans, mais pour les crimes, ça peut aller jusqu'à 20 ou 30 ans. Ou sans limitation. Mais ce suivi socio-judiciaire, il est prononcé si avant, il y a eu une expertise médicale qui a dit que des soins pourraient être nécessaires et voire indispensables. Donc il y a.
Ça veut dire que c'est pas toujours le cas. C'est pas le cas. Non. Il y a aucun systématisme, évidemment.
Non, il y a pas, parce que certains passages à l'acte en matière sexuelle ne relèvent pas de la psychiatrie. Ça peut être l'absence d'intégration des interdits, par exemple.
Il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir dans le témoignage de Clément à l'instant, qui parle parfois de communication difficile entre la justice, justement, et la santé mentale. Là-dessus, Virginie Duval, par exemple, est-ce que ça va mieux, on s'améliore, on arrive à se parler? C'est ce que vous disiez tout à l'heure il y a un instant, mais il reste visiblement des choses à faire.
Je crains malheureusement que ce soit parfois des questions de personnes et qu'on arrive à se parler quand les personnes se connaissent. Mais nos institutions ont un problème de communication. Quand ça fonctionne bien, c'est parce qu'on a des acteurs de terrain qui ont voulu mettre en place des choses. L'institution judiciaire et le ministère de la Santé ne travaillent peut-être pas assez ensemble.
Qu'est-ce que ça crée, quel genre de dysfonctionnement, Florence Thibault, quand on n'arrive pas à se parler, quand ça ne fonctionne pas très bien entre la médecine et l'institution judiciaire?
Ça a pu être à certains moments le fait que des collègues, par exemple, se plaignaient de ne pas avoir accès à certaines pièces du dossier judiciaire qui sont essentielles. C'est-à-dire, quand on suit un patient, on aime bien savoir ce que les experts ont pensé du patient, et donc on aime bien voir les expertises. Alors ça a été, je ne vais pas dire totalement, mais quand même bien réglé par la question de la loi de 98, qui a donc permis ce médecin coordonnateur qui fait relais, qui est un peu délié du secret médical dans certains de ses aspects, qui lui reçoit pratiquement systématiquement les expertises, ou en tout cas il a le droit de les exiger, et qui peut les transférer au médecin traitant. Donc ça a mis un peu de lien, on va dire, entre les différents systèmes, et ça a permis de répondre en partie à la question du secret médical, à laquelle les médecins sont très attachés et qu'ils ont toujours un peu de mal à partager avec la justice, sauf quand ils sont experts ou sauf quand ils sont médecins coordonnateurs.
Daniel, en un mot avant qu'on retourne au standard.
Alors, quels sont ces soins, justement? On parle de ces soins, mais c'est de quel ordre? On a toujours souvent en tête, on va dire après un fait divers comme celui que vous évoquiez, Fabienne, les soins anti-androgènes, c'est-à-dire pour bloquer la libido, mais il y a d'autres soins aussi. Qu'est-ce qu'on propose aux patients?
Alors, je vais répondre à la question de manière un peu générale. C'est-à-dire que si on prend les chiffres en prison, je crois qu'on est à peu près à 12 000 personnes qui sont incarcérées pour des délits sexuels. Sur des enquêtes qu'on a menées sur des petites populations, on considère qu'il y en a à peu près, dans ces 12 000, 10% qui sont des pédophiles multirécidivistes ou des violeurs multirécidivistes. Et donc, cette population, c'est-à-dire ces 10% au sein des 12 000, sont des patients qui clairement relèvent d'un traitement anti-androgène. Ne serait-ce que pour diminuer le niveau de leur pulsion, qui sont tellement obsédantes, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de violer quelqu'un. Et donc, en diminuant le niveau des pulsions, ils deviennent à ce moment-là plus accessibles à des thérapies d'autres formes. Psychothérapie au sens large du terme. Donc, si on met à part ces 10% là qui relèvent d'un traitement anti-androgène, après, c'est extrêmement hétérogène. Donc, on peut prendre en charge les patients en psychothérapie classique, on peut prendre les patients en charge avec des traitements antidépresseurs qui vont réduire le désir sexuel, par exemple, chez les exhibitionnistes.
Ça, c'est l'effet secondaire des antidépresseurs.
Qu'on utilise comme effet principal, c'est-à-dire qu'on sait qu'il diminue secondairement le désir sexuel et on l'utilise pour diminuer le désir sexuel quand on sait qu'il n'y a pas de risque important de violence sexuelle.
On a droit
en psychothérapie.
On a droit de refuser ou pas quand on est patient, ouais, ce genre de traitement.
On peut.
Alors j'imagine quand on n'est pas dans ces 10% peut-être, mais j'allais dire pour les autres, est-ce qu'on a le droit de refuser ce genre de traitement?
Alors dans le cadre de l'injonction de soins, ils peuvent pas refuser les soins, mais ils peuvent refuser certaines modalités de soins. Et nous, on est très attentifs au fait que, par exemple, les traitements anti-androgènes, on recueille systématiquement le consentement du patient. C'est-à-dire qu'un traitement qu'on emploie nous, quand on n'a pas d'autres alternatives thérapeutiques et quand le patient est d'accord. Et tout le problème, c'est quand le patient n'est plus d'accord. Parce qu'à ce moment-là, s'il est toujours en injonction de soins, on peut travailler avec le juge conjointement, demander au juge de demander à un tiers de faire une expertise sur lequel le juge va s'appuyer pour convoquer le patient, lui disant « Écoutez, l'expert quand même dit qu'il faudrait que vous continuiez le traitement anti-androgène. Donc, vous savez qu'on peut éventuellement vous remettre en prison. Donc, on a un peu un moyen de pression. Mais sinon, dans un autre cadre, si le patient dit « Je ne veux plus de ces traitements », s'il accepte de continuer à être suivi, on peut l'accompagner avec lui et juger du risque éventuel de récidive, mais il peut aussi claquer la porte et qu'on ne le revoie plus.
Bonsoir Esther.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue dans le téléphone sonne, Esther, on vous écoute.
Merci. Je voulais partager mon expérience, est-ce que vous m'entendez bien?
Mais absolument, allez-y.
Alors je voulais partager mon expérience, je vis à Montréal au Canada et j'ai eu la chance de participer en tant que bénévole à l'organisme Justice Réparatrice, qui permet de faire ce qu'on appelle des cercles de soutien, qui sont, on peut dire fraternité, amitié autour d'un ex-détenu spécialisé pour les pédophiles et délinquants sexuels, mais particulièrement les pédophiles. Et nous les aidons à trouver un logement, un travail. Et s'ils se trouvent dans la détresse, ce qui est malheureusement souvent le cas, puisqu'on sait que ces gens, lorsqu'ils sortent de prison, ils n'ont absolument personne. Pour peu que leur cas ait été médiatisé. Par conséquent, ils peuvent nous appeler à tout moment dès lors qu'ils sentent qu'ils sont en train de dégringoler et qu'ils peuvent commettre à nouveau des gestes irréparables. Je voulais également parler dans ce programme des maisons de transition pour ces détenus lorsqu'ils sortent de prison. Donc, étant dans ces maisons, ils peuvent avoir une certaine liberté, mais sont surveillés en même temps. Et dernière chose, il y a aussi le programme de rencontres détenues victimes. Je voulais dire à quel point cette expérience avait été non seulement enrichissante pour moi, mais je crois extrêmement bénéfique pour les ex-détenus. Et nous les aidons du mieux que nous pouvons à se réintégrer dans la société. Alors comme question, je demanderai nécessairement, est-ce que ce genre de programme existe en France? Et j'espère beaucoup qu'il existe.
Merci beaucoup pour ce témoignage depuis le Canada, Esther. On a l'impression, Virginie Duval, qu'on touche du doigt les différences, l'énorme différence d'approche qu'il peut y avoir entre le Canada, qui est assez connu pour un certain nombre de choses très expérimentales, et puis nous, en fait.
Dans la notion de suivi socio-judiciaire, il y a aussi sociaux. Et on ne peut pas limiter le suivi socio-judiciaire à la question des soins. On ne doit pas le faire d'ailleurs. Et l'accompagnement social de la personne qui a été détenue est extrêmement importante pour favoriser sa réinsertion et favoriser son travail sur lui-même, son éventuel suivi médical pour éviter la récidive. Donc c'est le rôle des conseillers d'insertion et de probation. Il y a des associations qui travaillent sur ces points-là aussi. La justice, la notion de justice restaurative existe aussi en France avec des rencontres entre détenus et victimes. Après, tout le monde n'a pas le profil pour participer à ce genre de...
D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs.
D'un côté comme de l'autre. Ouais. Il faut que chacun soit volontaire. Ça existe, mais c'est résiduel.
Oui, c'est très rare, j'imagine, en fait.
Oui.
Ouais. Et surtout pour ce genre de crime, non?
Et je dois avouer que je n'ai pas d'exemple de lieu sur cette problématique en matière sexuelle. Ça existe pour d'autres infractions. Mais c'est quelque chose qui, à chaque fois, fonctionne.
Mais est-ce que c'est vrai que les réinsertions sont beaucoup plus difficiles? Est-ce que ça, c'est chiffrable et chiffré lorsqu'on est un ancien délinquant sexuel ou un délinquant sexuel? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de se remettre dans le pli de la société, si je peux dire? Est-ce que ça, c'est vraiment documenté ou pas, Florence Thibault?
Pas à ma connaissance, mais les patients sont extrêmement stigmatisés et se plaignent beaucoup de la stigmatisation dont ils sont victimes. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de confrontations en France entre les victimes et les agresseurs, parce qu'on est très respectueux des victimes, qui en général sont très frileuses. Alors, moi j'avais essayé à la demande d'Odile Jacob, donc j'avais publié un livre sur les abus sexuels il y a à peu près un an ou deux. Et dedans, donc, j'ai mis à la fois des témoignages de victimes et des témoignages d'agresseurs. Des témoignages reconstitués d'agresseurs, pour essayer de faire des profils d'agresseurs, pour que les victimes comprennent comment pense un père incestueux, comment pense un violeur multirécidiviste, comment pense un père pédophile, quel type de démarche cognitive l'amène à penser que, par exemple, un enfant peut avoir du plaisir, du désir sexuel pendant la relation, vous voyez. Pour que les gens puissent se dire, voilà ce qui se passe dans sa tête au moment où il a pu passer à l'acte.
Et un autre exemple qui nous vient de l'étranger, qui intrigue nos auditeurs. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
On vous écoute Olivier, allez-y.
J'avais vu il y a quelques années un reportage qui concerne l'Allemagne et le traitement de la pédophilie. Et il était c'était très insistant sur le fait qu'il y avait beaucoup plus de prévention et que c'était un sujet peu tabou que d'investir de l'argent sur les potentiels violeurs plutôt que d'avoir des enfants qui sont malheureusement victimes. Alors je voulais savoir si dans l'état actuel du système de santé en France et de notre culture, est-ce que ce système serait facilement duplicable ?
Potentiel violeur, c'est compliqué, Virginie Duval, j'imagine, de partir de ce principe.
Oui.
C'est moins qu'on puisse dire. Merci oui, Olivier pour votre remarque.
On peut travailler sur la notion de récidive, mais avant, sur la prévention, ça me paraît compliqué.
Je vous pose la question parce qu'il y a une autre question dans ce sens sur franceinter.fr qui parle à nouveau de castration chimique en disant, lorsque avant l'acte, un certain nombre de personnes sentent qu'ils ont des pulsions, etc., est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de préventif en fait en la matière ou pas du tout, Florence Thibault?
Alors c'est quelque chose qu'on demande depuis des années au ministère, c'est-à-dire qu'on rêverait d'avoir un numéro vert où les gens puissent appeler de façon extrêmement anonyme pour dire voilà, j'ai telle difficulté avec ma sexualité, qu'est-ce que je peux faire, qui je peux consulter. Et on en a parlé, reparlé. Les Allemands ont été plus réactifs que nous parce qu'on en discutait au plan international. Ouais. Donc eux l'ont fait.
C'est ce que suggérait Olivier qui a l'air bien. De dire qu'on est moins, il y a moins de tabous en fait.
Et en France, on n'y arrive pas. Et on l'a demandé, redemandé, et on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, parce qu'il y a d'autres priorités, parce que tout ça. Daniel,
j'ai pas la réponse à votre question là, mais je crois qu'il faut particulièrement insister au cours de cette émission pour remettre justement le message autour de ce potentiel numéro vert, parce que vous m'en avez beaucoup parlé, Florence Thibault, et c'est vrai que on imagine qu'une personne effectivement qui aurait en tête des fantasmes, qui aurait envie d'en parler, qui pourrait en parler à quelqu'un et qui ne passerait pas à l'acte, ce serait quand même un acte de prévention absolument formidable. Et vous me disiez, on pourrait éviter effectivement des actes de pédophilie ou d'inceste. Donc c'est pas grand chose un numéro vert, c'est pas énormément d'argent, mais ça pourrait avoir une action extrêmement importante. Donc si on peut profiter de cette émission pour relancer un appel auprès des instances publiques, pour lancer ce numéro vert qui manque vraiment manifestement, parce que vous êtes, vous, persuadé qui travaillez avec des délinquants sexuels depuis des années, que ça pourrait avoir une efficacité.
L'expérience allemande est très positive.
Donc ça marche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Et ça veut dire qu'on prévient réellement en fait des actes de déviance sexuelle ou quels qu'ils soient.
On peut les orienter vers des prises en charge en tout cas.
Virginie Duval.
Oui, tout ce qui peut être fait avant l'intervention de la justice doit l'être. Parce que finalement, quand on est dans le cadre des injonctions de soins, des injonctions où les services de la justice interviennent, c'est qu'il est déjà trop tard, il y a déjà eu un passage à l'acte. Donc il faut qu'on travaille bien en amont Je suis sidérée que on refuse ça dans notre pays, et ça va à l'encontre de tous les grands discours qu'on nous ressasse après chaque fait divers dramatique.
C'est ça. Alors, mais du coup, qu'est-ce qu'on vous répond en fait? Parce qu'à un moment, on n'est pas au café du commerce quand on parle à ces gens-là. Donc, j'imagine qu'ils vous disent des choses beaucoup plus argumentées que oh, ben tout ça, c'est tabou, etc. C'est quoi la réponse?
C'est une idée intéressante, mais ce sont des raisons économiques qui ne nous permettent pas de le mettre en place.
D'accord, ce qui est une manière de noyer le poisson intéressante. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Philippe, vous êtes psychiatre et on vous écoute.
Oui, je suis psychiatre et praticien hospitalier. Je voulais intervenir par rapport à une expérience très, très personnelle et subjective sur les injonctions de soins. Moi, j'ai une expérience assez négative des injonctions de soins, c'est-à-dire que on va dire vulgairement que ça marche pas ou ça marche rarement, parce que les gens que je vois viennent sous contrainte, ils savent qu'il y a des risques naturellement, et ils viennent là pointer, mais comme ils viendraient pointer à la gendarmerie. Et le fait qu'ils soient en plus sous contrainte ne favorise pas l'alliance thérapeutique, donc qui serait le propre d'une démarche personnelle et individuelle. On a là effectivement quelque chose qui transforme à la fois les psychiatres quelque part en acteurs d'un contrôle social et qui en même temps est pas forcément, voire même à mon sens, pas du tout efficace sur le plan thérapeutique, sauf quand les gens naturellement ont une conscience de leurs troubles. Et les quelques personnes que j'ai pu voir qui sont inscrites vraiment dans une thérapie, c'est paradoxalement des gens qui n'étaient pas encore incarcérés ou qui n'étaient pas incarcérés et qui avaient entendu à l'audience qu'il y avait une possibilité, sinon une injonction de soins, et qui sont venus spontanément, effectivement, trouver le psychiatre avant même de recevoir l'ordonnance qui préconisait l'injonction de soins. Là, on est dans le cadre, effectivement, d'une démarche, d'une prise de conscience et d'une démarche volontaire. L'injonction de soins, c'est une sorte de pointage, effectivement, chez le psychiatre, comme on peut le faire à la gendarmerie.
Florence Thibault, qu'est-ce que vous répondez à votre collègue Philippe?
Alors, c'est vrai qu'on reçoit de temps en temps des demandes en urgence avant la démarche judiciaire, qui sont en général des demandes d'avoir un certificat pour dire « je suis suivi, est-ce que vous pouvez atténuer ma peine ?» Donc, je suis toujours un peu partagée sur ce type de demande. Et pour répondre à la question du collègue donc sur l'injonction de soins, c'est vrai que quand l'injonction a été mise en place en 98, en tant que psychiatre, j'étais assez partagée en me disant « mais je ne suis pas un auxiliaire de justice, je me sentais dans une position un peu difficile, et d'autant plus difficile qu'il y avait peu de médecins coordonnateurs et que je m'étais proposée comme médecin coordonnateur puisqu'à l'époque on était très peu nombreux dans la région où j'étais ». Et puis, avec le temps, j'ai dû voir une centaine de patients à peu près en tous aux coordinations. Et je dois dire que je trouve le bilan assez positif parce qu'on voit des patients évoluer. On voit des patients qui étaient réfractaires à toute prise en charge. Et puis, au bout de 2-3 ans, finalement, ils disent « oui, j'y réfléchis. Ça m'a permis d'entamer une démarche de soins. Peut-être même que je continuerai cette démarche de soins à l'arrêt de l'obligation. Ou en tout cas, je saurai vers qui me tourner si jamais j'ai de nouveau des pulsions qui réapparaissent ou si je sens que je dérape au niveau du comportement. Donc j'ai vraiment beaucoup évolué sur ce point-là et je crois que c'est le nombre et le recul des années qui font que j'ai beaucoup changé de point de vue sur cet aspect et que j'ai tendance maintenant à dire l'injonction de soins, c'est un cadre intéressant qui permet d'avoir du temps pour se poser avec le patient et puis de se dire, au début, c'est vrai qu'ils ne sont pas très demandeurs, le pédophile multirécidiviste qui est sous l'emprise de ses pulsions toute la journée, s'il n'y avait pas la justice qui nous l'envoyait, je ne suis pas sûre qu'il ferait la démarche à ce moment-là, sauf s'il en a assez d'avoir déjà fait 20 ans de prison, ça se voit de temps en temps. Mais sinon, ils ne font pas forcément la démarche tout à fait spontanément. Et quand on les voit dans le cadre de l'injonction de soins, ça permet de mettre en place une thérapeutique, de les mettre un peu à distance de leurs pulsions. Et à ce moment-là, ils disent « oui, finalement, c'est bien, ça m'a permis de me poser, de rencontrer quelqu'un, de voir que je pouvais prendre de la distance par rapport à mes pulsions, que le traitement m'aidait, et finalement, j'ai envie de le continuer ». Donc on a beaucoup de retours positifs comme ça.
Allez-y, Virginie Duval.
La même question peut se poser pour les personnes qui ont des problèmes d'addictologie, qui ont des conséquences et qui entraînent des actes de délinquance routière, par exemple.
Ou
sexuelle. Là, on pose l'acte, c'est-à-dire que l'institution, le juge, pose l'interdit. Ça peut être considéré comme le point de départ obligé. Après, ils en font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Mais il faut d'abord aussi se confronter à ce qu'on a commis et ce pourquoi on a été déclaré coupable. Donc il y a un cheminement qui est, on peut l'entendre, hein, difficile de ne pas avoir envie.
J'allais dire, il y a beaucoup de déni en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de déni plus que dans d'autres cas ou pas? Vous êtes en train de faire non avec la tête, Florence Thibault.
Non, on est en moyenne à 10 à 15% de déni, ce qui reste vraiment un chiffre très faible. Donc ça veut dire 90% des criminels sexuels reconnaissent qu'ils ont commis un crime sexuel et disent j'ai une difficulté avec ça.
Et est-ce que justement ça change quelque chose dans leur regard une fois qu'ils sont sous traitement? Est-ce que, je me souviens, vous m'avez dit quand on s'est rencontrés, ils ont une vision différente, ils réalisent ce qu'ils ont fait, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Certains vous ont dit, mais c'est vrai, j'étais un monstre d'avoir pratiqué de tels actes. C'est le traitement qui leur amène à avoir un regard différent sur ce qu'ils ont commis?
Alors si on parle des 10% qui sont des pédophiles multirécidivistes et des violeurs multirécidivistes, quand on les met sous traitement anti-androgène, on a pratiquement tous au plan international la même expérience. Au bout de 2 à 3 mois, quand la testostérone commence à être un peu plus à distance, ils ont d'un seul coup un moment extrêmement dépressif où ils disent « mais enfin je suis un monstre, c'est terrible ce que j'ai fait, comment j'ai pu faire des choses pareilles ?» Ils sont extrêmement critiques et ils peuvent même parfois avoir des idées de suicide parce que d'un seul coup, ils sont capables de réaliser ce qu'ils ont fait. Alors que tant qu'ils sont sous le coup de la pulsion, ils ont pas du tout de distance, donc ils réalisent pas, ils ont envie, donc ils font. Un peu comme quelqu'un qui est extrêmement alcoolique et qui a une envie de boire, il boit et il se préoccupe pas de savoir s'il va prendre sa voiture après, parce qu'il peut pas s'empêcher. Il a un désir irrépressible et donc il passe à l'acte. Et donc quand on met à distance ça avec le traitement anti-androgène, on a ce recul et cette critique qui est possible. Mais là, je parle vraiment des cas les plus compliqués, hein. Je parle pas des 90% des autres délinquants sexuels où il y a une population extrêmement hétérogène et il y a autant de personnes qui commettent des délits sexuels que de délits sexuels qui sont jugés. C'est-à-dire que chaque fois, c'est une histoire différente, un contexte différent, des circonstances différentes. Donc ça crée des populations extrêmement hétérogènes. C'est pour ça qu'en termes de récidive, on dit en moyenne, on est à 15%, mais ça dépend qui vous considérez. Si vous prenez un pédophile à petit garçon, vous êtes plutôt à 40% de récidive en l'absence de traitement. C'est vraiment ceux qui récidivent.
40%.
Oui.
Bonsoir Camille.
Bonsoir. Pardon.
Allez-y Camille, on vous écoute. Virginie Deval, j'ai vu que vous vouliez intervenir, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Allez-y Camille.
C'était plus pour donner un témoignage. Allez-y. Je suis éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, donc on s'occupe de mineurs, délinquants et auteurs de violences sexuelles. Et ça vient un peu toucher à la fois la question des moyens financiers, à la fois la question de l'articulation entre la santé et la justice. Mais on a eu notamment une situation où un jeune qu'on avait suivi pendant près de 5 ans jusqu'à sa majorité et un petit peu au-delà, une fois qu'il est devenu majeur, la question de la contrainte au niveau du soin a été très difficile à poser. Il a notamment arrêté complètement son traitement. Ça a mis énormément de temps avant qu'il puisse être vu par les personnels soignants. Il a notamment loupé beaucoup de rendez-vous. Le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, a pris le relais, mais ça a pris énormément de temps aussi. Là, ça fait près d'un an qu'on a arrêté la prise en charge de jeunes. On a toujours des liens avec lui, mais au niveau judiciaire, il ne se passe rien en termes de réponse, et lui a du coup le sentiment d'être un peu dans une certaine impunité. Et voilà, c'est des fois long à se mettre en place et il n'y a pas vraiment de réponse parfois.
Merci Camille, merci pour ce témoignage, témoignage d'une éducatrice de la protection judiciaire. Virginie Duval, parfois c'est long, dit-elle.
Oui, il y a un peu pêcher sur la continuité du suivi, parce qu'en fait quand les mineurs sont suivis par le juge des enfants avec la protection judiciaire de la jeunesse, et en fait il y a juste un changement de service, ça peut être ensuite le juge d'application des peines avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et cette phase là peut avoir une espèce de trou noir en fait, qui peut être mal vécu par le justiciable. C'est quelque chose qui est on essaye que ce soit plus fluide. Malheureusement il y a encore des difficultés.
Et on est dans le même ordre d'idées, je voudrais qu'on écoute Dominique. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
On vous écoute, Dominique.
Je voulais témoigner justement à propos de ces mineurs auteurs de violences sexuelles. Je suis pédopsychiatre à Besançon et depuis maintenant une dizaine d'années, on s'occupe de ce public-là. dans une unité qui est spécialisée, où on les reçoit dans le cadre de groupes et également individuellement. Alors évidemment, la prise en charge est différente de celle des adultes qu'évoquait le professeur Thibault, mais elle est très importante dans la mesure où on sait que ces adolescents, s'ils ne sont pas pris en charge, risque de récidiver à l'âge adulte. D'ailleurs, des statistiques montrent que souvent les auteurs d'agressions sexuelles adultes ont commencé à se livrer à des agressions sexuelles alors qu'ils étaient adolescents. Et je voulais dire qu'il serait bon que dans différentes régions, cette problématique soit mise en évidence, parce que c'est pas encore le cas. Je le fais, moi, en ce qui me concerne, par l'intermédiaire du CRIAFS. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais ce sont des centres qui existent dans chaque région de France et qui sont chargés d'établir des liens sur la question des violences sexuelles entre la justice, la santé, la PJJ pour les mineurs, et de faire des liens, d'intervenir dans les institutions, les IME, les ITEP. Ce sont des institutions qui accueillent des mineurs, soit des déficients intellectuels, soit qui ont des troubles du comportement, et où qui nous sollicitent très souvent pour des situations d'agression sexuelle qui ont lieu au sein des établissements et qui mettent en grande difficulté les personnes qui s'occupent de ce public.
Merci beaucoup Dominique pour ce témoignage. Virginie Duval, je vous ai vu lever le doigt.
Oui, sur la question des moyens. La question des moyens est évoquée. Il y a encore des départements où nous n'avons pas de médecin coordonnateur, où il n'y a pas de suivi suffisant pour les personnes qui sont concernées par ces condamnations et ces suivis socio-judiciaires. Et donc, on a vraiment une problématique extrêmement importante. On ne peut pas non plus demander aux patients d'aller à 200 ou 300 kilomètres ou changer de ville pour avoir ce suivi-là.
Fait quoi, pardon, dans ces cas-là?
Il n'y a pas de suivi. C'est un suivi qui est, comme l'autre auditeur l'évoquait, qui n'est pas vraiment un suivi. C'est un suivi où on signe, quoi.
On coche.
Donc, il faut absolument que ces outils, qui sont des outils importants et intéressants, puissent être développés et qu'il y ait une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, ce que nous n'avons pas actuellement.
Daniel,
concernant la problématique des mineurs, est-ce que vous voyez déjà arriver dans votre consultation, professeur Thibault, des mineurs qui ont commis des actes d'agression sexuelle parce que trop empreints d'images pornographiques, par exemple? Est-ce que on voit déjà des conséquences de ce type?
Alors, je voulais profiter que vous me donniez la parole pour féliciter notre auditrice, parce que je crois qu'il y a peu d'équipes de pédopsychiatrie qui travaillent avec des mineurs délinquants sexuels. Donc, il faut vraiment vous féliciter, vous encourager. Et il faut vraiment que vous fassiez école dans le reste de la France. Je crois que c'est très important que des gens comme vous, qui sont pionniers, puissent faire connaître leur travail et le diffuser. Pour répondre à votre question sur les mineurs délinquants sexuels, effectivement, on en voit arriver par le biais d'addictions sexuelles qui apparaissent progressivement après des expositions très précoces à la pornographie via les jeux vidéo. C'est-à-dire, j'en profite pour alerter les parents, parce qu'en fait, sur les jeux vidéo, vous avez des publicités qui sont envoyées si vous mettez pas de fenêtre de contrôle, qui sont des publicités pour de la pornographie, et ensuite la pornographie de plus en plus hard, et on voit arriver de temps en temps de la pédopornographie, et donc progressivement ils développent une addiction sexuelle, voire des comportements déviants sexuels. Et ça commence à... Alors ça a été
donc
déjà...
Donc on parle des jeux en ligne, en fait,
oui,
c'est l'idée.
Oui, sur les jeux en ligne. Mmh. Donc ils commencent à être exposés vers 11-12 ans à de la pornographie de plus en plus hard, et puis ils deviennent, alors qu'ils n'ont pas touché une fille ou un garçon, jamais embrassé qui que ce soit, ils deviennent addicts à la pornographie extrêmement hard, et ils viennent, dans le meilleur des cas, dans nos bureaux de consultation pour consulter avant un passage à l'acte, quelquefois parce qu'ils ont été surpris en train de regarder des sites de pédopornographie, et à ce moment-là, le juge a été interpellé et nous les envoie dans les bureaux. Et donc, il y a une vraie question sur le risque de l'exposition précoce à la pornographie. Et ça a été beaucoup repris par les médias étrangers, en particulier par le Guardian, qui a plusieurs fois titré là-dessus, sur cette problématique qui est en train de s'installer tranquillement et discrètement.
Et le passage qu'évoquait Dominique, statistiquement, disait cartel entre délinquants adultes, enfin délinquants mineurs et délinquants adultes ensuite. Est-ce que statistiquement, ça aussi, c'est prouvé, ça existe ?
Elle a complètement raison. Et quand on interroge les délinquants sexuels, je parle des plus sévères. Si on parle, par exemple, avec un pédophile, les pédophiles disent que leurs fantasmes pédophiles sont apparus le plus souvent à la préadolescence, 15-16 ans. Et quand un adolescent de 15-16 ans a des fantasmes pédophiles, c'est inquiétant, il faut qu'il consulte.
On a parlé tout à l'heure très longuement du fameux numéro de téléphone qui manque, de ce numéro vert qui manque. Je voudrais qu'on écoute Latifa. Bonsoir Latifa.
Bonsoir.
Vous vous dites, il y a un numéro, il existe et c'est le vôtre.
Alors, c'est pas un numéro vert, c'est un numéro normal, c'est mon numéro portable qui répond à toutes les détresses et justement...
Mais vous avez une association, Latifa, commencez par là.
Une association qui s'appelle l'Ange Bleu, d'accord. L'association L'Ange Bleu que j'ai créée en 98, justement, pour répondre à ce gouffre, à ce manque pour les pédophiles qui sont pas passés à l'acte, qui sont abstinents ou passifs, et justement, j'ai des dizaines et des dizaines de personnes concernées qui m'appelle. Je travaille étroitement avec le CRIAF. Le président du CRIAF, c'est Mathieu Lacambre. Lorsque c'est nécessaire, lorsque je sens qu'il y a une nécessité de prise en charge clinique, eh ben je transmets le sujet. Je ne vais pas dire patient parce qu'ils ne se sentent pas. Et je précise que j'ai de plus en plus d'adolescents qui sont addicts à la pédopornographie, qui demandent de l'aide parce qu'ils ne peuvent pas l'avouer ni aux parents et qui ne sont pas arrêtés. Donc il y a une prise de conscience en amont.
Latifa, merci beaucoup. Pardon de vous presser, mais l'heure tourne. Juste une réponse, Laurence Thibault. La preuve juste que, effectivement, tout ce qui existe, c'est des moyens totalement artisanaux.
Oui,
c'est ça,
qui reposent sur des personnes. Et ce que je pourrais conseiller à la personne qui s'occupe de l'Ange Bleu, c'est de ne pas hésiter à nous les envoyer en consultation le plus rapidement possible pour qu'on les prenne en charge.
Et merci à tous d'avoir participé au téléphone sonne. Merci pour tous vos appels et portez-vous bien.